Bienvenue à tous dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Cette semaine, second épisode dédié aux travaux de Thomas Procureur, docteur en sciences politiques. Thomas Procureur s'est intéressé, au cours de sa thèse, à la singularité politique et institutionnelle du département français. Au cours du premier épisode, nous replacions ses recherches dans le contexte plus général de la science politique, avant d'examiner les relations que le département entretenait avec les autres échelons territoriaux. Plus généralement, ces deux épisodes du Labomatique s'interrogent sur les dynamiques animant le département et qui le rendent finalement impossible à supprimer. Au cœur de notre premier épisode, nous soulignons l'existence d'un premier processus explicatif, la technicisation croissante des politiques publiques prises en charge par le département. Au programme aujourd'hui, nous aborderons le département au travers de l'élection et du cumul des mandats.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus.
Dans votre thèse, je le rappelle, vous mettez en évidence les formes paradoxales, vous les appelez comme ça, de légitimation du département comme objet institutionnel et politique. Alors jusqu'ici, on a parlé d'une légitimation par l'action publique, et surtout la technicisation de l'action publique qu'on a abordée, qu'on a exemplifiée. Si on prend le cas de l'élection, deuxième point que vous abordez dans votre thèse, qu'est-ce que vous avez tenté de démontrer par-delà le fait que les conseillers départementaux étaient précisément élus ? Et que fait-on aussi de la forte abstention dans l'analyse hein, en sciences politiques dans votre thèse, comment avez-vous réussi à articuler ces choses ?
L'idée de travailler sur les résultats des élections, c'était d'interroger, encore une fois, un lieu commun de la recherche qui voudrait que les conseillers généraux soient des notables, au sens à la fois de la science politique, mais aussi au sens commun du terme, c'est-à-dire des élus indéboulonnables, réélus de manière systématique, au premier tour, avec des scores complètement proches d'une république bananière, en caricaturant le propos.
Oui, voilà,
l'idée était d'essayer de comprendre comment les choses pourraient fonctionner. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur trois départements, l'Ille-et-Vilaine, l'Aveyron et le Val-de-Marne, pour avoir des profils de départements tout à fait différents, avoir un très rural, un très urbain et un intermédiaire, et ce qui permettait aussi de remettre un peu en perspective les résultats que j'obtenais ce que je pouvais observer dans chacun des trois départements. Et donc pour interroger un peu cette figure du notable, je suis remonté jusqu'au scrutin de 1970. Donc j'ai dépouillé et épluché les résultats entre 1970 et 2011 pour essayer de voir comment les choses se déroulaient concrètement. Parce qu'on peut aussi considérer que le notable, il réussit à être réélu avec des scores à 60-70% aussi parce que sa candidature est tellement évidente qu'en fait elle dissuade des candidats de se présenter contre lui. Et donc ça se trouve assez vite confirmé. Ce qui est intéressant avec cette épaisseur historique, c'est de constater que la figure du notable, elle évolue au fil du temps. En fait, elle a constamment évolué. Parce que des notables, on en parle depuis le 19e siècle, voire même au préalable. Donc en fait, c'est une nouvelle évolution de la figure du notable, aussi liée à la technicisation des politiques publiques que gère le département. Il y avait une logique pendant très longtemps qui a fonctionné, qui était un peu empreinte de clientélisme. Aujourd'hui, les finances publiques et le fonctionnement et le contrôle qui est réalisé sur l'action des collectivités ne permettent plus d'avoir ce genre de mode de fonctionnement. Donc on est aussi dans une évolution plus technique du profil du notable. D'ailleurs, certains auteurs parlent de technotable. Donc cette contraction qui montre bien qu'à la fois, il y a une dimension très forte d'ancrage local qui demeure très importante aux yeux des électeurs. On constate que souvent dans des cantons ruraux, alors il faudrait vérifier par rapport aux nouveaux cantons tels qu'ils ont été redécoupés, mais sur les cantons pré-2014, en tout cas avant le redécoupage, on voit bien que dans certains cantons, si on a un candidat qui n'est pas issu du canton, c'est rédhibitoire pour lui. Donc il y a aussi cet attachement à l'ancrage local et au gage que peut donner l'élu et le candidat de défendre les intérêts de la circonscription et du canton en tant que tel. Donc voilà, l'idée c'était de travailler sur cette notion de notable pour travailler sur l'incarnation du territoire et voir ce qui peut être distingué entre la légitimité de l'élu sur le plan cantonal et la légitimité de l'institution aux yeux des électeurs, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir que concrètement, dans les cantons les plus ruraux, le conseiller général est identifié parfaitement bien. En revanche, l'institution départementale l'est beaucoup moins. Et donc, du coup, c'était essayer d'interroger cette dialectique entre deux échelons, mais aussi remettre en perspective la façon dont ces élus, arrivant avec cette légitimité, entre guillemets, micro-locale, peuvent contribuer à une action politique et publique au niveau départemental. Et donc, comment ils réussissent à arbitrer entre eux, parfois, ce que sont les intérêts de leur canton et ce que peut être l'intérêt départemental.
D'accord. Est-ce que... Vous avez parlé de la modification des cantons, du redécoupage des cantons, ce qui nous amène à forcément évoquer les modifications qui sont intervenues pour les dernières élections, donc dans les modalités d'élection même. Je le rappelle, toute la France a voté au même moment, et ça consistait non pas à élire un seul représentant, mais un binôme homme-femme. Qu'est-ce qui se joue de ce côté-là, du point de vue de la légitimation peut-être du département ?
Alors, deux choses. D'abord, le redécoupage n'avait pas eu lieu depuis la création des cantons à la fin du XVIIIe siècle. Donc, le redécoupage systématique. On avait procédé à des redécoupages. Le nombre de cantons a été relativement stable. Il a augmenté du temps de Napoléon, du fait des conquêtes. Mais finalement, la carte avait assez peu évolué. Elle a relativement... était stable jusque dans les années 1960, grosso modo, et après, avec le développement urbain, on a redécoupé. Mais à ce moment-là, le redécoupage ne se faisait justement que dans les territoires urbains. En fait, on s'est toujours refusé à réduire le nombre de cantons ruraux. La solution a systématiquement été de scinder les entités urbaines pour ne pas remettre en cause les circonscriptions rurales, ce qui souligne aussi le lien que peut avoir le département justement avec la ruralité. Dans beaucoup de départements, avant le redécoupage, on avait une situation où le nombre de cantons ruraux était bien plus important, ce qui fait que le nombre d'élus ruraux était majoritaire. Les élus ruraux étaient majoritaires dans l'Assemblée. Donc ça a aussi une incidence sur le fonctionnement. De la même manière que pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, en fait, on se rend compte que beaucoup d'assemblées départementales ont des présidents qui ne sont pas élus dans le chef-lieu. Parce qu'il y a une forme de défiance aussi, ou de méfiance en tout cas, vis-à-vis du chef-lieu. Il faut se distinguer parce qu'on est dans une logique où c'est le développement de l'ensemble du territoire. Et donc il ne faudrait pas que ça profite d'abord et avant tout au chef-lieu. Donc on est vraiment dans cette logique de recherche et d'équilibre. Donc avoir un élu extérieur au chef-lieu, c'est un gage de... Enfin, en tout cas, ça donne des gages dans le sens d'une meilleure équité territoriale. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc le redécoupage général, il devenait nécessaire quelque part. Lorsque j'étais dans l'Aveyron, je me souviens avoir fait un entretien avec un élu du chef-lieu, donc d'un des cantons de Rodez, qui m'expliquait que... lorsqu'il siégeait au Conseil général, lui représentait à peu près 14 000 habitants, et que l'un de ses voisins en représentait 800. Donc on voit bien que là, il y a un vrai décalage. Et encore une fois, quand il me parlait d'habitants, je pense que c'était le nombre d'électeurs inscrits. En fait, après, si on enlève un peu avec le taux d'abstention, même si dans le département de l'Aveyron, il est plus faible, il n'empêche qu'on se rend compte qu'il y a un véritable déséquilibre. Donc ça devenait nécessaire de rééquilibrer de ce point de vue-là. Oui. Alors bien évidemment, du coup, les élus ruraux ont craint que leur prééminence soit complètement remise en cause. Donc après, il faudrait regarder au cas par cas. Mais c'est évident qu'il y avait besoin de rééquilibrer. Quand on a un décalage comme celui-là, on peut difficilement le laisser persister. Sur le deuxième point, par rapport à la question de la parité, ça devenait un peu urgent, entre guillemets. Je, je caricature un peu, mais le département était la dernière collectivité dans laquelle l'objectif de parité était encore très très loin d'être atteint. Au soir des élections de 2011, on est à 13,8% de femmes dans les assemblées départementales. Donc, vous savez, au Sénat, il existe une commission qui s'intéresse à l'égalité femmes-hommes. Et en fait, le calcul avait été fait en 2009, je crois, de savoir combien de temps il faudrait encore pour arriver à la parité à ce rythme-là. Mm-hmm. Parce que le nombre de femmes progressait quand même petit à petit. Et en fait, la conclusion, c'était qu'il aurait fallu encore 70 ans pour arriver à une parité à peu près équivalente à ce qu'on a aujourd'hui dans les assemblées communales et régionales. Donc, il y avait un vrai retard sur ce plan-là. Alors, bien évidemment, depuis 2007 et la désignation d'un suppléant, on avait potentiellement plus de femmes parce que, et on l'a vu, je vous disais 13,8, c'était au début du mandat en 2011. En 2014, on avait plus que ça du fait des retraits ou des décès. On avait des femmes qui étaient entrées dans les assemblées départementales. Mais il n'empêche qu'on était à peine à 15%. Donc, ça aurait quand même nécessité encore beaucoup de temps. Donc, C'est un vrai changement pour le fonctionnement de l'Assemblée. Ça implique aussi un fonctionnement plus paritaire, y compris dans les instances en interne. Donc c'est un vrai changement. Mais ce changement-là accompagne et amplifie un changement générationnel aussi. Parce que en fait, le mandat qui a débuté en 2011 devait durer 3 ans. Mmh. Au final, il en aura duré 4, mais il était prévu pour durer 3 ans. Ce qui a abouti aussi à ce que certains élus acceptent de se représenter. Certains élus que j'ai rencontrés en Ille-et-Vilaine, que j'ai rencontrés avant les élections de 2011, puisque j'ai réalisé mon terrain en Ille-et-Vilaine avant les élections et les deux autres après, m'avaient expliqué qu'en fait, y compris dans la majorité, le président sortant, donc Jean-Louis Touraine à l'époque, leur avait demandé de bien vouloir rester si, bien évidemment, s'ils en étaient d'accord. Et donc certains de ces élus sont repartis aussi avec l'idée que c'était un demi-mandat et que du coup, il leur était possible de continuer. Mais donc, ça veut dire aussi qu'une partie des conseillers généraux qui auraient pu partir en 2011 si le mandat avait duré 6 ans comme ça se faisait au préalable, on aurait eu un renouvellement générationnel un petit peu à ce moment-là. Et donc, ça amplifie le renouvellement de 2015, parce que du coup, cette génération-là s'en va, et ceux qui seraient partis de toute façon en 2015 l'ont fait également. Donc du coup, ça rajeunit les assemblées et ça les féminise.
En plus.
Voilà. Donc du coup, ça modifie aussi le fonctionnement. On le voit bien aujourd'hui dans les compositions d'exécutifs départementaux. Beaucoup des vice-présidents et des vice-présidentes sont des novices, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des novices au sens où ils découvrent le fonctionnement des institutions ou de la vie publique, mais ce sont des novices au niveau départemental, c'est-à-dire qu'ils découvrent le fonctionnement d'un conseil départemental.
D'accord.
Ce qui est une richesse aussi, mais ce qui nécessite aussi de leur part un véritable investissement pour s'approprier justement les compétences de l'institution.
On arrive déjà au dernier point qui va nous occuper encore un petit moment, j'imagine, que vous abordez dans votre thèse, donc la question du cumul des mandats. Ça devrait intéresser aussi nos auditeurs. Donc, dernière forme de légitimation que vous abordez dans votre thèse. Donc, c'est une épineuse question. Peut-être tout d'abord rappeler que cette question, elle est loin d'être nouvelle. Mais au moment de votre thèse de doctorat, la loi organique du 14 février 2014 relative au non-cumul des mandats n'avait pas encore été validée par le Conseil constitutionnel. C'était pas la première fois qu'on tentait de limiter le cumul des mandats, ce qui est tout de même un instrument de sécurisation des carrières politiques. Ça a été souligné amplement par la sociologie ou les sciences politiques. Est-ce qu'on pourrait peut-être déjà rappeler en quoi consiste dans le détail cette loi organique du 14 février 2014 ?
La grande ligne de ce texte de loi, c'est qu'à partir de 2017, il ne sera plus possible de cumuler à la fois un mandat de parlementaire, député ou sénateur, et une fonction exécutive au niveau local. Donc en fait, on ne pourra plus être député président de conseil général, député président de conseil régional, mais on ne pourra plus non plus être sénateur vice-président de conseil régional. Dans l'hypothèse où on siégerait à la fois au Parlement et dans une assemblée locale, ça serait au niveau local simplement en tant que simple élu, et donc en tant que simple conseiller régional ou conseiller départemental. Donc de ce point de vue-là, on sape, entre guillemets, une des formes de légitimation que j'ai étudiée, au sens où la présence en nombre des présidents de département au Parlement, dans les instances et dans les chambres parlementaires, était une garantie aussi de la conservation des intérêts du département. Mmh. Quand on regarde un peu comment les choses se sont faites, à la fois au moment des lois de fer, alors avec un léger bémol qui tient au fait que François Mitterrand avait une affection particulière pour le département, ayant été lui-même président du Conseil général de la Nièvre. Il tenait à ce que les départements soient revalorisés, parce que, y compris en 1982, la question du département était déjà posée. Donc en fait, les lois de 82 sont une espèce de modus vivendi. On a un premier ministre qui est plutôt régionaliste, en la personne de Pierre Mauroy. On a un ministre de l'Intérieur qui est plutôt partisan de la commune, qui est Gaston Defferre, parce que à ce moment-là, il est maire de Marseille. Et on a un président de la République qui tient au département. Mmh. C'est aussi pour ça que les lois de fer sont aussi équilibrées entre les trois échelons. C'est qu'en fait, c'est un arbitrage et une construction d'équilibre patiemment et savamment arbitré. Donc on est vraiment sur cette logique-là. Et puis, à ce moment-là, le transfert est relativement facile, puisque l'idée, c'est de transférer des compétences aux assemblées locales, parce que les élus de gauche, notamment les élus socialistes, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale à ce moment-là, ont fait quelque part leur classe dans les assemblées locales et qui sont demandeurs, ils ont une véritable appétence pour les transferts de compétences. C'est aussi pour ça que les lois de fer, elles sont enclenchées très très rapidement, mm-hmm. parce que Gaston Defferre avait conscience que plus il tardait, plus les hauts fonctionnaires, y compris au ministère de l'Intérieur, allaient prendre la main sur la réforme telle qu'il souhaitait la mener. Alors du coup, on est arrivé à des situations un peu ubuesques. Il a fait publier au Journal officiel un texte de loi avec des points de suspension, c'est-à-dire que certains aspects avaient été sanctionnés par le Conseil constitutionnel, et il a fait publier le texte en l'état, en considérant qu'il compléterait les points de suspension par la suite. Donc c'est un cas un peu atypique, mais quand on regarde la décentralisation, ce qu'on appelle parfois l'acte 2, mais c'est très discuté, notamment au niveau de la science politique, mais aussi par les élus en 2003-2004, donc ce qu'on a appelé les lois Raffarin, on retrouve aussi cette prégnance des départements. Mais c'est aussi lié à des effets de calendrier électoral, là, pour le coup, puisque, en fait, la préparation s'est faite au cours de l'année 2003, et en fait, le texte de loi n'avait pas été complètement voté en 2004. Et dans l'intervalle, se sont tenues les élections départementales, donc cantonales à l'époque, et régionales. Et ça a été un raz-de-marée à gauche. Mmh. La majorité des départements et des régions ont basculé à gauche. Ce qui a amené aussi Jean-Pierre Raffarin, même s'il ne l'avoue pas, je l'ai rencontré dans le cadre de la thèse, je l'ai interrogé à ce sujet-là, il n'a jamais voulu accepter de me dire qu'effectivement il avait été obligé de revoir sa copie. L'idée étant que, en fait, la présence des représentants des départements avait fait pencher la balance. Entre autres parce que les élus de droite, et notamment les sénateurs à l'époque, puisque le Sénat était à droite à ce moment-là, reprochaient du coup au texte de transférer beaucoup de compétences à des assemblées dirigées par des élus de gauche au niveau régional. Donc en fait, on est aussi dans ce rapport, il y a aussi une dimension très politique au sens partisan du terme.
Oui.
Et je pense que à ce moment-là, ces élus-là avaient la conviction que il serait plus facile de refaire basculer une majorité de départements, ne serait-ce parce que le renouvellement se faisait tous les 3 ans, mmh. alors que les régions étaient acquises à la gauche pour 6 ans. Donc on est aussi dans ce jeu-là, c'est-à-dire que c'est aussi une question de calendrier électoral et d'embouteillage, enfin non pas d'embouteillage, mais de confrontation, c'est un entrechoc entre le calendrier électoral et le calendrier de la réforme. Donc on est aussi là-dessus. C'est pour ça que le fait de dire que les présidents de département ne pourront plus siéger au Parlement, ça veut dire que leurs principaux porte-parole ne seront plus en mesure d'influer de la même manière sur la décision. Alors, ce qui sera intéressant de voir, pardon, dans ce cadre-là, ce sera d'observer si ce sont les... S'ils choisissent de rester dans leurs assemblées et de continuer, entre guillemets, à faire du lobbying au niveau national pour défendre l'institution, ou s'ils feront le choix de rester dans les exécutifs et du coup de ne pas se représenter éventuellement au niveau du Parlement. Donc on verra un peu comment les choses fonctionnent. Mais ce qui est probable, c'est que la mise en œuvre de cette loi... à terme, parce que ça c'est valable pour les élus actuels, mais le choix des suivants sera complètement différent, puisque eux, ils devront faire le choix soit du national, soit du local. Donc on verra apparaître des profils très différents. Aujourd'hui, on évoquait cette question-là tout à l'heure, aujourd'hui un président de département ou un président de région, il peut être éventuellement identifié sur son territoire, mais en dehors, il est finalement assez mal connu ou très peu connu. Et on peut imaginer que du coup, on verrait émerger des figures au plan local qui ensuite seraient éventuellement amenés à des fonctions au niveau national, mais non pas sur une élection ou alors plus tard dans leur carrière politique, mais plutôt éventuellement au gouvernement. Donc on pourrait retrouver des présidents de conseils régionaux qui deviennent ministres ou ce genre de choses, mais sans forcément passer par la case Parlement ou ultérieurement. Donc ça peut réorganiser quand même très fortement le fonctionnement. Et c'est vrai que le fait de ne plus avoir de départementalistes, en tout cas les plus fervents d'entre eux dans les deux chambres de l'hémicycle, peut avoir une véritable incidence sur l'avenir du département, parce que aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais avant, la dernière fois que j'ai fait un recensement, c'était par rapport aux élections de 2012, aux élections législatives, on avait presque la moitié des présidents de département qui siégeaient au Parlement. Donc ça veut dire une vraie force de frappe. Mmh. Ça veut dire une cinquantaine d'élus. Même si tous les présidents de conseils régionaux siégeaient au Parlement, ça ferait 26, ils seraient moitié moins. Et ils ne sont absolument pas aussi nombreux que ça à être au Parlement. On a quelques présidents de conseils régionaux qui sont en situation de cumul avec un mandat national, mais ils sont largement minoritaire. Donc bien évidemment, en termes de capacité d'influence sur la rédaction de la loi, ils n'ont pas du tout le même poids.
Ça... C'est aussi peut-être l'avenir des carrières politiques qui va peut-être se jouer. C'est-à-dire que vous développez l'idée dans votre thèse que le département constitue un précieux outil, précieux instrument d'ajustement des carrières politiques. Là, vous semblez dire que justement, il va y avoir des ajustements, des nouveaux ajustements à produire à l'avenir.
Bien sûr. Le fonctionnement du département sur le plan politique est très très intéressant, dans la mesure où le mode de scrutin, même si aujourd'hui on est passé à un mode de scrutin binominal à deux tours, on est quand même sur une désignation directe. Donc on a un mode de scrutin qui ressemble au mode de scrutin applicable aux élections législatives. Sur le Conseil général, donc sur la version... pré-élection 2015, on avait un mode de scrutin qui était identique. Et donc, qui décuple la dimension personnelle du vote. Mmh. Donc on est vraiment dans cette logique-là. C'est un mode de scrutin qui est basé sur la personnalité. Donc on est vraiment sur une visibilité. C'est-à-dire qu'un candidat qui se présente à une élection au scrutin uninominal à deux tours, il sait quel capital il suscite, quel capital il peut engranger. Et donc, ça peut être un vrai marchepied vers une candidature pour les élections législatives. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. J'avais fait le recensement en 2014 en 2012 pardon, pour les conseillers généraux également députés en Ille-et-Vilaine. Ils sont quatre. Et une partie des suppléants des députés d'Ille-et-Vilaine étaient eux-mêmes des conseillers généraux. Donc on voit bien qu'il y a une forme de complémentarité, d'autant que les circonscriptions législatives sont aussi constituées de cantons. Mm-hmm. Donc on retrouve ce lien-là. Parallèlement, au niveau du Sénat, le département correspond à la circonscription d'élection des sénateurs. Donc cet échelon-là a un vrai sens politique, y compris partisan, parce que la quasi-totalité des formations politiques françaises ont une structuration à l'échelle départementale. Mmh. y compris Europe Écologie Les Verts, qui pourtant prône régulièrement la disparition des départements et qui est plutôt porté sur la région, eux-mêmes ont une instance départementale. Mmh. Parce que effectivement, les régions sont tellement vastes qu'à un moment, ils sont aussi amenés à avoir des structures un peu plus ramassées. Donc c'est aussi sur ce plan-là que c'est intéressant. Et effectivement, après, le mandat de conseiller général, de conseiller départemental aujourd'hui, peut servir de valeur refuge. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le fait que l'élection se fasse tous les 3 ans par moitié, ça évitait une trop forte politisation du scrutin. On était un peu dans une logique d'élection intermédiaire, comme on les qualifie en sciences politiques, à savoir que il y avait une forme de sanction du gouvernement en place, mm-hmm. sans forcément que ça permette de prédire le prochain scrutin au niveau national. Mais il y avait cette dimension-là, très clairement. Mais dans les cantons les plus ruraux, on était quand même sur des dimensions très, 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 très locales. Donc c'est un scrutin qui est ambivalent parce que les grilles de lecture sont multiples. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir un renouvellement intégral change un peu la donne. On voit bien que le vote sanction, du coup, fonctionne davantage dans un contexte comme celui du mois de mars 2015. La dimension valeur-refuge du mandat départemental va aussi être amenée à évoluer. Parce que jusque-là, le fait d'avoir un renouvellement tous les 3 ans, par moitié, ça voulait dire que même si on était battu, on avait encore son mandat jusqu'au prochain renouvellement départemental, voire 6 ans plus tard si on venait d'être renouvelé. Et du coup, ça permettait d'avoir un mandat, entre guillemets, d'attente, tout en continuant à avoir une action sur le plan local. Parce que, effectivement, c'est aussi un peu l'ambiguïté du système, c'est que les députés sont désignés pour représenter la nation, mais ils représentent aussi leur circonscription.
Bien sûr.
Et donc le lien à la circonscription est fondamental. Mais bon, c'est un sujet sur lequel j'ai un peu réfléchi, mais c'est vrai que c'est le sujet d'une thèse d'une de mes collègues qui est en train de rédiger, donc elle en parlerait nettement mieux que moi, mais peut-être que vous aurez l'occasion de l'inviter.
Peut-être, qui sait. En attendant, merci Thomas Procureur d'être passé nous voir dans le Labomatique, donc l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Je le rappelle, vous êtes docteur en sciences politiques et membre du Centre de recherche sur l'action politique en Europe, le CRAP est rattaché à Sciences Po Rennes et l'Université Rennes 1. Comme à chaque fois, chers auditeurs, retrouvez cet épisode du Labomatique sur www.radiocampusrennes.fr. Merci Thomas Procureur.
Merci de votre invitation.
Le Labomatique,
l'émission scientifique